Bonjour à tous les AMG. Des nouvelles du repère de Courpierre dans le Puy-de-Dôme. Rendez-vous le deuxième vendredi du mois à 18h30. Et donc ce vendredi, on parle de croissance et décroissance, mais changement de lieu exceptionnel pour des raisons techniques, puisqu'on passe deux petits films sur la récupération. Rendez-vous à 18h30 à la librairie associative Les Mots Bleus, rue du 14 juillet à Courpierre. Et bien sûr, le mois prochain, on se retrouve chez Zico, comme d'habitude, avenue de la Gare. Salut!
Bonjour à tous les AMG et à toi Daniel, Jocelyne de Pau. Toutes tes émissions sur le social me rappellent une histoire, un conte de La Fontaine. C'est un loup qui rencontre un jour un chien de ses amis et il lui parle de ses difficultés à vivre. J'ai des problèmes pour me nourrir, j'ai souvent froid l'hiver. Mais toi, compère, je vois que tout va bien, tu as le poil bien brillant, tu es fringant, tu as les yeux qui brillent. Et chemin faisant, le loup regarde un peu plus le chien en détail. Et puis vers le cou, il remarque une marque et lui dit « Mais mes compères chiens, qu'est-ce que cette marque ?» Et à ce moment-là, le chien lui dit « Ah, mais c'est mon maître la nuit qui m'attache à une niche. » Et ce faisant, eh bien, le loup qui enviait le chien et qui cherchait lui aussi la chaleur du foyer, une bonne nourriture riche et saine, eh bien, prend ses jambes à son cou et court encore. Alors, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, je pense que on peut se positionner. Alors, vous-même, vous êtes plutôt des chiens ou plutôt des loups? À bon entendeur, salut!
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler de Welcome, le beau film de Philippe Lioret qui relate les conditions de vie difficiles des clandestins de Calais et l'avanie des bénévoles qui les soutiennent. Alors, rendez-vous samedi 9 mai à 21h au cinéma associatif Vox de Château-Renard dans le Loiret. 64 places assises pour une projection du film et une rencontre avec Emmanuel Courcol, l'un des trois scénaristes du film. On a invité Monsieur Éric Besson, le ministre de l'immigration, on n'est pas sûr qu'il viendra. Au revoir.
Salut, moi j'aurais toujours aimé rencontrer Daniel, pouvoir discuter avec lui, mais le problème de Daniel, c'est qu'il va toujours là-bas, mais je veux passer un bon moment avec Daniel, j'ai trouvé un moyen de passer 24 heures avec lui, ça va être super. Daniel, écoute-moi bien, je te garantis que nous allons passer 24 heures ensemble en garde à vue. Alors écoute bien mon message, de faire dérailler un train. Je répète, à l'attention de Daniel Mermet, est-ce que tu as un moyen de faire dérailler un train? À bientôt.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, avec une pensée pour les 8 mai 1945 et pour tous ces résistants qui se sont battus de Stalingrad, de Vercors, de Ouistreham à Berlin contre le nazisme des résistants qu'on appela souvent des terroristes. Beaucoup d'entre eux rêvaient d'un autre monde sur d'autres bases, des rêves qui se sont heurtés souvent au dur pépin de la réalité politique. Un autre monde est possible, les utopies, mais faisons ces utopies, mais quant à passer aux actes et quant à réaliser ces rêves, c'est une autre paire de manches. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé et ce qui arrive actuellement en Bolivie. Un certain Evo Morales a été élu en 2005 et le voilà, lui et ses aspirations et tous ceux qui le portent au pouvoir, confronté au dur pépin de la réalité. C'est une chose de rêver d'un autre monde, c'est une autre chose que de le réaliser. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est passionnant. Ce à quoi se heurtent les obstacles, les choses trappes, les pièges, les stratégies, les impasses, les succès, les retournements, les opportunismes, les passions diverses des groupes, des hommes, des uns et des autres, c'est absolument passionnant. Et on en voit déjà les résultats, on en voit les effets tout à fait inattendus, tant nous sommes toujours dans nos rêveries, dans nos utopies, scandant un autre monde est possible, sans jamais aller plus loin. La Bolivie va plus loin Et ce à quoi elle se heurte, cette aventure, cette expérience, nous intéresse. C'est pour ça que nous sommes là. Je vous parle très sérieusement. Et aujourd'hui, on va faire un truc pas très très sérieux, parce que il arrive souvent dans ces reportages que on soit pas aussi sérieux que ça, qu'on se détende de temps en temps, qu'on rigole. Et bien sûr, vous vous en doutez. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en revenant à Dhaka. Dhaka, au Bangladesh, où un jour, avec Guy Vanquefil, on a simplement décrit ce qui se passait autour de nous dans une ville folle, bordélique, mais aussi pleine d'énergie qu'est cette ville de Dhaka. C'est notre balade du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 42 à la mémoire de Moulin.
Voilà, Daniel. J'étais en train de chier, là, en train de réfléchir aux grandes questions qui nous préoccupent, et notamment à la question de la loi, ce qui va bien, d'ailleurs, avec la défécation, si l'on en croit Freud. Et m'est venue une autre formulation. Je me suis dit, le problème, c'est pas simplement d'avoir des lois. Ça, on n'a pas résolu le problème en se disant, voilà, on va faire des lois. Encore faut-il savoir qui va les faire, c'est-à-dire à qui elles vont profiter. La loi n'a de sens que si elle est générale. Hein, c'est la définition même de la loi, que si elle profite au plus grand nombre. Et même comme ça, moi, ça me pose un problème, parce que le plus grand nombre, ça veut dire qu'elle peut exclure une minorité. Mais c'est surtout la question de savoir à qui va-t-elle profiter, ou vont-elles profiter, les lois. Et c'est là où il y a un échec. C'est peut-être aussi, tiens, ce que tu disais des prisons, finalement, une utopie qui ne fonctionne pas. Voilà. Elle m'a beaucoup plu, cette formule. Hein. Je te dirais même, bon, là, j'ai pas le temps, vraiment. J'ai une demi-heure pour me préparer, là. Mais ça m'a beaucoup plu, l'histoire de qu'est-ce que c'est qu'une utopie. Y a-t-il un lieu possible pour l'utopie, dans quelles conditions, etc. Bon, j'y vais, là, Daniel, excuse-moi. La bise à Agnès, je me dépêche.
Qu'on se le dise, mardi prochain, mardi 12 mai, à partir de 18h, au Verrapied, le Verrapied 118 bis rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement de Paris, métro Sancier-d'Aubenton, eh bien on va tous fêter ensemble les 10 ans de la disparition de notre ami Mouna, président fondateur, cyclodidacte, président fondateur des Amis de la Vie. Alors on projettera un film de Bernard Bessa, qui s'appelle Mouna. On pourra tous reprendre avec Nathalie Solens sa belle chanson qu'elle a écrite avec Claude Guen et la compagnie du Tournezin qui s'appelle On gueulera pour toi. Et puis il y aura Mouna, l'orgue de barbarie, enfin du pur Mouna. Donc mardi prochain, mardi 12 mai, on attend tous les auditeurs, mardi 12 mai à partir de 18h, au 118 bis rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. C'est un haut lieu, le Verrapied, un haut lieu du quartier latin, bien que situé au rez-de-chaussée. Voilà, salut, alors on vous attend tous mardi. Salut Daniel, salut à tous.
C'est parti.
Alors là, on va vraiment mourir. On va mourir, c'est sûr. Jamais vu une ville aussi polluée, aussi délirante, aussi malade de toute ma vie. Et jamais vu une chose pareille. On est dans Dhaka. On a essayé de survivre dans Dhaka. C'est pas du tout sûr. Comme il arrive. Là, il y a un bus qui me frôle l'épaule, littéralement. On est dans un rickshaw. Nous, on a pris un rickshaw à moteur. C'est impossible pour nous de monter dans un rickshaw à vélo, quoi. S'asseoir là-dedans, c'est avoir l'air d'une sorte de pacha. Pourtant, ils sont très, très beaux, ces rickshaws vélo. Mais on a préféré le tchouk-tchouk. Et c'est vraiment infernal. Et encore, là, c'est la partie la plus calme de la ville. Hein. C'est les beaux quartiers. C'est un petit peu, ça correspond, quoi, à la Défense, peut-être. Mais c'est sans doute la ville la plus embouteillée du monde. Pourtant, la compétition est dure, mais c'est sans doute la ville la plus polluée. Les gens sont vachement gentils, parce qu'il y a un gars, là, bon, il perd pas Ils voient qu'on est des blancs. Il y a très très peu de blancs dans cette ville, enfin très très rare. Et les gens sont vachement souriants et tout, et ils s'amusent de nous voir parler. Puis il y a notre chauffeur qui est devant là. Voilà, là ça va. Ah, il a coupé le moteur.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec qui vend-il, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise.
Je ne sais pas si on va mourir, mais en tous les cas... Avant de mourir, on sera passé place Unie le Vert. Ouais. Ici, à Dakar, au milieu de cette immense place... que nous traversons au quai au tchou ou pour ma putain. Ah là, on l'a vu. Oh là là. Il y a un monument à la multinationale Unie le Vert. C'est le. Voilà, il y a écrit en gros Unie le Vert sur un monument de ciment, de marbre. C'est la place Unie le Vert. Et là, c'est juste à côté, évidemment, je vois des ouvrières avec des paniers qui rentrent du boulot ou qui vont au boulot. Et puis alors, des petits gosses, des mendiants, comme il y en a ici, qu'on voit au feu rouge. Ah, ça vous chope à la gorge. Hein. C'est terrifiant. Absolument terrifiant.
Vous avez le choix. Vous avez le choix pour aborder Dakar. Soit vous pouvez lire les lignes qui suivent. Dakar, la capitale du Bangladesh, s'étend sur la rive nord du fleuve Buriranga, au centre du pays. Si vous venez d'Asie du Sud-Est, elle vous fera l'effet d'une ville assoupie. Si vous arrivez de Delhi ou de Katmandou, vous serez frappé par la relative pureté de l'air. Si vous venez de Calcutta, vous trouverez la ville propre et organisée. Et si vous venez du Bangladesh rural, vous vous croirez au paradis. La capitale dispose d'infrastructures qui font défaut dans le reste du pays. Voilà ce qu'on peut dire sur un guide touristique par charité, je ne nommerai pas. Mais vous pouvez aussi lire que le Bangladesh, et Dakar tout particulièrement, est l'un des lieux les plus dangereux du monde. Les Moudjahidines sont là dangereux. Ils ont formé, ces Moudjahidines afghans, les fondamentalistes bangladais qui ont entamé un nouveau cycle de violence qui plonge le pays dans le pire des obscurantismes et le gouvernement de Dimo. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on va essayer de survivre parce que vous entendez des reportages, vous entendez des voix, des personnes, etc. Mais entre les lieux, entre les personnes, entre les événements, eh ben, y a la circulation. Et sans doute que Dakar est la ville la plus cinglée du monde pour ce qui concerne la pollution, les embouteillages, une ville de 10 millions d'habitants dans laquelle il y a 300 000 rickshaws. 300 000 rickshaws vélos, hein, des gars qui pédalent toute la journée, qui pédalent jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Alors régulièrement, la police, parce que à peine 80 000 de ces rickshaws ont une licence et sont repérés par les autorités, mais tous les autres, évidemment, sont clandestins, entre guillemets, simplement des milliers, des dizaines de milliers de, comme les ouvrières, comme ceux qui travaillent sur les chantiers de démolition des navires, sont des gens qui essayent tout simplement de survivre, d'échapper à
à la misère et à la famine. C'est très souvent des gens qui viennent des régions nord de ce pays delta. Le Bangladesh, 150 millions d'habitants, c'est le delta du Bengale. C'est beau, un delta du Bengale, on dirait un titre de roman de gare. On va voir que c'est pas tout à fait ça, même si la ville a des côtés très sympathiques, et puis surtout les habitants, effectivement, sont très sympathiques, industrieux qu'ils sont, et souriants qu'ils sont, et surpris qu'ils sont. Mais qu'est-ce que des Blancs peuvent bien faire dans notre ville? C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, sur France Inter. Mais là, on va mourir. Hein. On est coincé comme d'habitude entre deux énormes bahuts déglingués, cabossés, rouillés. Et voilà, ça klaxonne de tous les côtés entre les marchands de fringues. Alors maintenant, il y a un truc nouveau que je n'avais pas encore vu. C'est de magnifiques charrettes, de magnifiques carrosses avec des petits chevaux, genre petits mulets, comme ça, emplumés. Et puis. À bord, des gens comme des espèces de nababs, des princes, avec des regards lointains qui sont dans ce... J'ai jamais vu un pays aussi fou de bruit. Et que dit le gars là-bas, dans le haut-parleur? Ils adorent les haut-parleurs, les gens ici. Qu'est-ce qu'il raconte?
Publicité, publicité.
Publicité, une page de publicité.
Médicaments.
Les médicaments. Quels médicaments?
Des médicaments pour augmenter la durée de sexe.
Voilà, ouais, d'accord. Ouais. Ben c'est très bien pour les mariés.
Orgasme.
Ouais. Orgasme garanti. Ouais. Ouais. Hop, on passe entre les deux. Non mais j'ai vraiment le tuyau d'échappement directement dans le nez. Directement dans le nez. Il y a quand même un gars qui passe et qui vend aux passagers du car. Il leur vend
la glace.
Il leur vend de la glace. Et devant nous, il y a des rickshaws vélo. Et là, alors, tous les rickshaws sont décorés, c'est très connu à Dakar, au Bangladesh, les rickshaws décorés. Mais chaque rickshaw est un poème. C'est-à-dire qu'on peut, finalement, on s'amuse beaucoup dans les embouteillages parce que on peut regarder là-bas, celui-là, c'est des personnages des films hindous. Ouais. L'autre là, il y a des personnages peints, c'est très très bien peint. Il y a un gros œil, un peu comme un œil de Fatma. Il y a un personnage avec une mitraillette. Il y en a d'autres qui ont la gueule en sang là-bas. D'autres qui ont des... avec des fleurs autour, on sent des... on sent des... Et le chauffeur se barre. Ce gars-là passe sa vie dans cette cage, hein, parce que les chauffeurs sont entre trois grilles de fer, trois grillages, et voilà le carrosse qui nous rejoint avec des femmes voilées. Le char... Regarde l'autre, il a le ventre en avant. Les gros ne font rien, sont assis, et les autres pédalent. Là, ils sont en train de faire la canne à sucre. Il n'y a pas... Chaque millimètre de l'œil est occupé par un étonnement. Les gars qui courent. C'est une circulation de la fluidité. On est un peu comme des poissons dans un banc de poissons. Il
mais pas comme des poissons dans l'eau pour ce qui nous concerne, nous, si tout le monde autour est tout à fait à l'aise et tout à fait bien et heureux. Et c'est vraiment les habitants de Dakar, je sais pas comment on les appelle, sont vraiment les Mozart du rickshaw, les Mozart de la circulation. Ils ont un art de circuler dans ce bordel, dans ces embouteillages, de façon tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il y a au-dessus de nous, au-dessus de la circulation, c'est des échafaudages en bambou. On utilise beaucoup le bambou au Bangladesh. Le climat permet de faire pousser du bambou en grande quantité et en très très grande taille, des longueurs de 6, 8, 10 mètres de bambou d'un seul tenant comme ça, et qui servent dans les pour les échafaudages entiers avec des échafaudages construits en bambou. Et on utilise aussi les bambous pour monter, grimper, étendre, accrocher une affiche ou un panneau publicitaire, ou le peindre, parce que très souvent ces panneaux publicitaires sont peints à la main. Et vous avez au-dessus de vous à 30 ou 40 mètres un gars qui est assis ou sur un pied sur un simple bambou en train de peindre un truc. J'ai toujours admiré, j'avais vu ça déjà en Inde, je crois que c'est à Delhi ou à Bombay, je ne sais plus. Fellini aurait connu Dakar, il aurait simplement promené sa caméra dans Dakar, et on aurait eu cet étonnement d'enfant qu'on a devant les films de Fellini, et que Fellini avait envers la vie. Et là, c'était la vie italienne, mais envers la vie et envers son enfance.
Il y a un type avec un sifflet qui fait la circulation, lui. Il fait la circulation et il nous conseille de ne pas passer par là. Ah, pourquoi? Pourquoi il nous conseille de ne pas passer par là? On va bientôt le savoir. Parce qu'il y a une manifestation qui vient contre nous. La manifestation vient vers nous. Alors on va être mal vu par les manifestants, nous qui sommes toujours pour les manifestants. Nous sommes toujours dans les manifestations. Voilà, on va être mal vu. On est repoussé. D'accord les gars. Oh, c'est une petite manif. Qu'est-ce qu'ils veulent?
On vient de se faire emboutir là, par derrière, par une camionnette. Donc le chauffeur sort tout de suite, très énervé. Et du coup, on bloque complètement la rue.
Mais ça fait rien, on démarre. On peut pas s'engueuler longtemps. Il en a mis trois coups dans le cul quand même. C'est la première fois qu'on se fait emboutir en 8 jours de... Je crois que c'était un peu volontaire, hein. C'est très maîtrisé. Voilà, on a croisé la manif. De l'autre côté de l'avenue, ils sont absolument bloqués dans les gaz d'échappement. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Là, on double des pelotons de rickshaw. Hop, le gars avec son bidon de lait, hop là, qui passe. Et à gauche, c'est des charrettes qui... Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer en rentrant.
Jamais. À côté de ça, le périphérique, ouais, c'est un vrai billard.
Non mais rouler à 240 sur le périph, c'est pas vraiment prendre des risques. Non, au lieu de faire le Paris-Dakar, tu viens simplement avec ta moto, tu fais une heure dans Dakar et tu survis, c'est tout. Ça, c'est une épreuve, non? Pour des Européens. Traverser Dakar, alors, t'as une épreuve à pied, t'as une épreuve en patin, roulette.
Des fois, tu peux même pas marcher parce que sur le trottoir, il n'y a que des marchands.
Des étals et des marchands.
Et les piétons, c'est au milieu de la route.
Les pauvres chevaux, j'ai pitié pour ces chevaux.
Oh là là.
Ah les gars, avec ces immenses paniers sur la tête, regarde. Hop là. Là, le gars, il va traverser, le gamin traverse avec une montagne d'œufs. Là, eux, ils portent les charrettes. Ça, c'est vraiment les esclaves. Oui, c'est les hommes mulets. Il y a d'énormes charrettes avec une cinquantaine de sacs. Je ne sais quoi, de carton. Là, il y en a un qui a des petites bobines de ficelle sur son dos. Un paquet de bobines de ficelle, là, des pneus. Attention, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, hop, encore une manif.
La police fait la circulation.
Attention, une manif. Une manif avec une dame, un monsieur, un beau moustachu.
C'est la partie politique du gouvernement.
Oh, comme ils sont heureux.
Le parti nationaliste bangladéchi. Avec des petits chapeaux blancs sur la tête, bien sûr exclusivement des hommes, et ça fait quoi? Ça fait 200 personnes maximum qui marchent au pas de course.
Et ils font pas pitié, hein. Ils sont plutôt bien nourris, enfin, à l'échelle du pays, ils sont plutôt...
Et là, il y a un paresseux qui a fait la manif à cyclopousse.
Il a fait un pouce-pouce. Et la volonté y est, et il a l'air martial avec sa petite moustache et son petit machin en carton blanc sur le front avec le texte. Il n'a pas besoin de crier. C'est écrit là, c'est écrit sur le front.
Et il n'a pas besoin de marcher, il y a le cyclopousse qui a pédale.
Ah voilà, un beau cheval.
Avec des guirlandes de fleurs tout autour.
Vous êtes fous.
Un peu plus joyeux déjà celle-là.
On va bientôt arriver. Les flics sont à la fois. C'est difficile de les. À la fois sévères et débonnaires. Sévères et débonnaires à la fois.
Là, c'est des marchands de tissus de toutes les couleurs.
Là. Ah, une manif.
C'est la quatrième depuis tout à l'heure.
On va entrer vers le port, non?
Ben,
on est dans le port, au bord de la rivière.
C'est ce qu'on voulait.
On descend? On laisse?
Oui, écoute.
On est arrivé.
Ouais. On est content.
Ça est sauf.
Jusque-là, ça va.
On est sur le port de Dakar, là, c'est complètement délirant. D'abord l'odeur. Le mot qui vient, c'est cloaque.
Ça
pue, c'est épouvantable. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des énormes ferries. Il doit passer du temps des Britanniques qui font des traversées. On va savoir vers où. Et puis il y a cette quantité de bateaux avec 2-3 personnes et des gondoliers. Des gars qui bossent exactement comme des gondoliers avec une barre derrière. Et puis, de temps en temps, des bateaux moyens, des espèces de grosses péniches très rapides, hein, qui transportent des marchandises. Il y en a une qui transporte d'énormes ballots. Et d'autre côté, on aperçoit la rive avec tous les bateaux, les petits bateaux de cette taille-là. Ils sont très beaux, d'ailleurs, très belles formes, comme ça, relevés un peu en avant et beaucoup plus relevés en arrière. Assez courts, hein. C'est des bateaux qui font 3-4 mètres.
On a un petit garçon tout nu, là, qui est en train de remonter sur le pont et qui plonge. Alors, ces gamins, ils sont dans cette eau, mais l'eau, elle est pas noire, quoi. Elle est plus noire que noire, elle est opaque. Voilà.
Et les mômes sont magnifiques.
qui sont 3-4 gamins là, qui sont en train de plonger dans les eaux du fleuve Buriranga, qui est un des plus grands fleuves de Dakar, qui est une ville en grande partie effectivement sur l'eau, comme tout le Bangladesh est un pays sur l'eau. Là donc, vous avez compris, on est au bord on est arrivé, on a réussi, on a survécu et on a traversé cette ville, on est arrivé sur les bords du fleuve. On a croisé ces quatre manifs qui quand même traduisent une vitalité sociale dans cette ville et dans ce pays, mais spécialement dans cette ville de Dakar, où on l'a vu, les gens se laissent pas faire, s'organisent en association, en ONG, en syndicat, c'est plus difficile, mais ils se laissent pas marcher dessus, ils se laissent pas faire, ils se battent, ils ont vraiment l'énergie, c'est une énergie absolument folle qui traverse cette ville. Et là, on va faire un tour sur le fleuve, et alors ça suppose évidemment de négocier avec les bateliers, avec ceux qui effectivement, comme des gondoliers à Venise, nous attendent avec leur barque. Nous attendent, nous non, pas vraiment. Enfin, il faut la traverser, quoi, du fleuve, pour qui veut bien. Et là, exceptionnellement, d'une façon extraordinaire, il y a deux blancs, qui c'est Guy et moi, avec notre ami Ondaï, qui est notre ami traducteur et formidable connaisseur de notre pays, de la France.
Alors on monte sur la petite barcasse, tout en bois. Alors, quand tous les sampans sont imbriqués et intriqués les uns dans les autres, il faut en bouger 4 pour pouvoir sortir. L'accident. Voilà, c'est pas mal. Regarde celui-là, il est à bord. Il y a plus le fil de l'eau, et au moins juste en dessous, il est rempli de briques. C'est pas qu'il y a presque plus de place que sur la proue. On comprend pas pourquoi il coule pas, quoi. Là, la moindre mec qui bouge, le bateau chavire.
Trafic de... Ça, c'est des ferries qui descendent le fleuve ou qui montent le fleuve. Et là, il y a tout un trafic de péniches et de remorqueurs qui transportent toutes sortes de camelotes. Et puis sinon, il y a des petits bateaux indépendants, comme ça, comme le nôtre, qui transportent des gens, des petits bateaux taxis.
C'est comme dans la rue avec les pousses-pousses, les rickshaws, les autobus et les camions.
Ouais, c'est un autre genre d'embouteillage, c'est un autre genre d'odeur, c'est un autre genre d'ambiance. Les eaux sont résolument glauques, grises. C'est les eaux du Gange quand même. Ah, et du Brahmapoutre. Il n'y a pas que le Gange, il y a aussi le Brahmapoutre. Mais le Gange, je le connais pour être allé à Bénarès. Quand je pense qu'ensuite, il traverse Calcutta quand même avant d'arriver ici. C'est-à-dire que toutes les ordures du monde arrivent ici. Et nous, on est tranquillement là, naviguant avec notre... accompagnateur improvisé là qui est avec son parapluie noir qui nous tient à l'abri du soleil. Faut faire attention aux blancs, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Ici on a vraiment un sentiment d'être en voie de disparition, d'une fragilité, on dirait des petits bibelots extrêmement fragiles. Dakar, c'est un port. Le Bangladesh, c'est de l'eau, et Dakar, c'est un port. Sur ce grand fleuve. Et là, cette symphonie pour marteau, c'est le chantier de réparation. De construction, de réparation, de restauration, en tous les cas, des bateaux. Et là, il y a une quinzaine de bateaux. Certains sont en cale sèche et sont en cours de réparation. Il y a un chalumeau et tout le reste se fait à coup de marteau.
Alors là, ça va nous réparer aussi, ça va nous réconcilier, parce que on a vu que des chantiers de démolition de navires, bah au moins là, on les construit.
Voilà, port de Dakar, ces énormes navires en réparation, en restauration. Ça nous rappelle que le Bangladesh, comme l'Inde, comme énormément de ces pays en voie de développement, comme on dit, eh bien recycle, retape, réutilise tout de façon permanente. De l'autre côté du fleuve, c'est l'accès de tout ce qui est... C'est un marché où tous les végétaux, les légumes, les fruits, les fleurs arrivent sur ce fleuve très glauque, mais qui est un des grands moyens de vie et de survie des habitants de Dakar.
Ah ouais, le bateau des citrouilles, comme dans les histoires. Il fonce celui-là, hein, c'est un bateau de passagers, mais ça fonce drôlement, hein. Ça avance méchamment, hein.
Ça tangue un peu là.
Attends, je ne comprends pas ce qu'on voit.
C'est un sous-marin ou un bateau?
Voilà, c'est entre le sous-marin et le bateau, c'est complètement coulé ce truc. Et qu'est-ce qu'il transporte?
Le sable ou du gravier. C'est absolument plus tellement il y a de l'eau qui passe par-dessus bord. Alors nous, comme sur une petite coquille de noix, ça tangue. Hop. T'as vu dans le ciel, il y a des dizaines et dizaines de corbeaux qui planent.
Ah, qui attendent. Il y a un gars qui est en train de prendre son bain. Il y a tout un tas de gens qui sont en train de se baigner. Mais il est en train de prendre son bain avec une volupté, avec un plaisir. Il se détend. Il est bien. Et alors, il se rince la bouche. Il avale l'eau. Il la recrache. Et puis, il nage un petit peu. Il fait quelques mouvements. C'est un peu le Bénarès du pauvre, ici. Je commençais à trouver que le fleuve, c'était beaucoup plus cool, comme son nom l'indique. Mais là, on s'approche des ferries. Là, il y en a un qui vient vers nous quand même, plutôt, qui a plutôt tendance à venir vers nous. Voilà, on va bouger. Il y en a un derrière qui, avec son haut-parleur, dit quelque chose.
Non, ils vont à la réunion du parti politique du gouvernement, de Barichal.
Alors, c'est une manif. On est venu sur le fleuve pour fuir les manifs dans les embouteillages, mais non, il y a un énorme navire quand même derrière, hein, le ferry. T'as vu qu'il nous fout
la puissance d'actuel gouvernement. C'est la manifestation simplement pour montrer la puissance de l'actuel gouvernement.
On fait un grand usage du haut-parleur ici, du porte-voix. Par exemple, les bus, le matin, eh ben, il y a des haut-parleurs sur le bus et on passe de la musique, une espèce de bouffée de musique ambulante comme ça, ou bien au cours des longs voyages et des longs blocages dans les embouteillages, dans les autocars par exemple, eh ben, il y a un gars qui prend le micro et qui chante une petite chanson, une petite prière ou qui raconte une petite histoire à l'usage de ceux qui sont dans le car, mais aussi bien à l'usage des passants et des embouteillés alentour.
On passe entre des gros bateaux là.
On passe. Ouais, largement. On va vers le port.
Il y a des petits garçons là, regarde, qui grimpent le long des chaînes des ancres.
Et ils vont plonger là-bas. Alors. Alors là, nous, ça va être quelque chose pour sortir de là. On se déchoue dans la.
Hop. S'enfonce un peu dans la vase.
Et voilà.
Oh,
Là, c'est intéressant parce qu'on arrive. C'est très agréable comme endroit, hein. C'est aéré, c'est beau, ça sent un peu le poisson séché, mais c'est très agréable. Et sur le sol, là, sur ce grand espace, il y a des filets qui sont étendus et les gars sont en train, ce monsieur-là par exemple, est en train tout simplement de raccommoder ses filets. Voilà, ils vont nous raconter leur histoire après. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on nous dit, c'est qu'autour de la place, là dans la verdure, bon c'est un petit peu poussiéreux parce que c'est la saison qui veut ça, c'est les maisons des contracteurs, c'est les maisons des recruteurs, de ceux qui font les contrats, et c'est ceux qui vivent le mieux dans l'affaire. C'est ceux qui vivent le mieux, le plus confortablement.
Là, regarde, là, il y a une belle maison en dur, avec une belle véranda, à l'étage.
Voilà, c'est l'endroit des agents recruteurs. Alors, il y a le drapeau du pays, il est magnifique avec son sari rouge. Enfin, ah, mais c'est un rose bengale. Le voilà, le fameux rose bengale. Et c'est la couleur, exactement la couleur du sari de cette dame qui est à contre-jour. C'est très beau, hein, de cette pièce d'eau, cet étang dormant, très vert, l'eau est très très verte. Et il y a cette dame avec dans son sari rose bengale, avec un liseré jaune et son seau, qui nous regarde tout à fait étonné, sans du tout pouvoir imaginer ce que je peux être en train de raconter. C'est quand même étonnant, hein, d'entrer dans un village de pêcheurs comme ça. La foule, la curiosité, les gens nous regardent vraiment comme ils nous détaillent, quoi. Hein. On n'a jamais vu de blanc comme ça. C'est assez souriant. Et là, il n'y a que des filles, regarde, il n'y a que des fillettes. Ah, on est à l'attraction, là. Hein. Il suffit de pas grand-chose. Il y a tout le village autour de nous, là. Oh, c'est tout décoré.
Là, on pousse toutes les affaires, on bouge les coussins, on pousse un peu les chaises et les lits pour qu'on puisse rentrer dans cette cabane.
Voilà, on est dans ce village de pêcheurs au Bangladesh, à côté de Chittagong. Et les gens sont très contents, ils voulaient que on vienne d'occidentaux, de journalistes occidentaux, et ils voulaient attirer l'attention sur leur sort. Ils sont de village de pêcheurs, très 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 modeste, mais bon, la vie ça va à peu près, sauf que il y a ces fameux chantiers de destruction des navires, de shipbreaking à côté, et ça a entraîné des pollutions terrifiantes, et leurs poissons, il n'y a plus de poissons, il faut aller beaucoup plus loin pour pêcher les poissons, et la survie de ce village est difficile, sinon compromise, peut-être même définitivement compromise. Alors, il voulait nous raconter ça. Ce qui est important à savoir, c'est que ces gens-là, on ne sait pas a priori quand on connaît pas ce pays, le Bangladesh, sont hindouistes. Et c'est très important dans un pays qui est majoritairement musulman. Le Bangladesh est majoritairement musulman. C'est un avatar, c'est le cas de le dire, de l'histoire. Après la partition de l'Inde, entre l'Inde plutôt majoritairement, même si on compte à peu près 200 millions de musulmans en Inde, mais contre à peu près 800 millions d'hindouistes. Donc les musulmans sont minoritaires, même si c'est une communauté et un monde très important en Inde. Les partitions de l'Inde, partitions avec ce qui va devenir le Pakistan, majoritairement musulman. Ça, c'est des moments de l'histoire. Et dont le Bangladesh, qui était dans un premier temps
le Pakistan oriental est devenu, après une lutte d'indépendance contre le Pakistan, le Pakistan que nous connaissons, est devenu le Bangladesh, un pays indépendant et majoritairement musulman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces identités religieuses, il y a évidemment des avatars politiques et historiques qui se prolongent et qui se vivent toujours aujourd'hui. Très important de ne pas perdre de vue non plus l'importance de l'hindouisme, de l'hindouisme radical en Inde. On avait parlé en 2003 lors de nos reportages, à travers un parti très puissant, très très puissant, et qui domine une partie de l'Inde, et notamment une ville comme Mumbai, c'est-à-dire Bombay, qui est un parti nationaliste et religieux à la fois, qui exerce une pression très importante contre l'islam en Inde et contre le Pakistan. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'islam radical ou l'islam politique dans le monde si on ne comprend pas la poussée et la pression de l'hindouisme radical venant de l'Inde. C'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et ce petit village de pêcheurs au Bangladesh, les gens sont hindous, sont hindouistes, ils sont tout à fait bangladais, mais c'est leur religion, c'est une petite communauté, et dans le contexte, eh bien, c'est une minorité, donc, de pêcheurs qui nous reçoivent chaleureusement ce jour-là. On a tout le village autour de nous, hein. On s'est assis dans cette maison, mais très 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 modeste, hein, en tôle et en feuilles de bananier au-dessus de nous, avec des poutrelles de bambou. Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Doulaldas.
Donc là, on est dans un village de pêcheurs, on a vu en arrivant, hein, les filets, les gars qui sont en train de réparer des filets, il y a des odeurs de poissons, etc. Et il se trouve que votre village est perturbé parce que à côté, il y a ces chantiers de démolition des navires, ces gros, gros navires qui viennent échouer là et finir leur vie depuis le monde entier, qui sont démolis là. Et évidemment, il y a plein de pollution, de gaz, toxiques, de pétrole et de tas de saloperies à bord de ces navires. Et tout ça, ça pollue l'environnement, ça pollue la mer, ça pollue les sols, ça pollue la terre, si bien que vous, au point de vue de la pêche, c'est plus ce que c'était.
À l'époque, quand mon père était un pêcheur, il pêchait aussi poisson au bord de la mer. Et même quand j'avais commencé mon métier comme pêcheur, c'était la même chose. J'attrapais beaucoup, beaucoup de poissons au bord de la mer. Mais maintenant, il faut aller très, très loin, qui est plus dangereux. Et en plus, on a besoin des machines techniques. Sinon, ça devient très très difficile et très dangereux.
Est-ce que vous êtes allé voir les patrons des chantiers pour discuter avec eux de cette histoire de pollution ? Est-ce que vous avez essayé d'obtenir des dédommagements ?
Nos filets ont été endommagés et nous leur avons expliqué que la condition est très très mauvaise. Mais ils nous ont porté une plainte, mais personne ne nous a entendu.
Vous vous sentez abandonné, quoi, en somme ?
Alors non, ils ne nous écoutent pas. Par contre, ils disent que comme ils payent un impôt au gouvernement du Bangladesh, donc leurs profits, leurs avantages sont beaucoup plus importants que les nôtres.
C'est ça. Les patrons des chantiers considèrent que déjà ils payent des impôts. Bon ben, démerdez-vous avec le gouvernement.
Oui, exactement.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, on va nous faire voir leur port. Il y a des mouilles qui posent déjà. C'est vachement marrant, c'est la marée basse là. Et les mômes posent déjà sur les bateaux. Ce qui est marrant, c'est que leurs bateaux sont des canots de sauvetage qui ont été récupérés sur les grands navires, sur les grands paquebots. Et puis il y a aussi leurs bateaux traditionnels à eux, en bois, qu'on voit là, toute cette partie-là, c'est quand même. Et là, c'est la marée basse, c'est très très beau là, évidemment, c'est boueux, ça pue, bon, c'est la vie. Mais là-bas, on voit que il y a un magnifique reflet de soleil sur l'eau, là. C'est le plat d'argent là-bas. Manque de peau, ces gens-là sont très malheureux parce que depuis qu'il y a ces chantiers de démolition de navires, il y a des tas de saloperies, de polluants de toutes sortes, d'acide, de pétrole, de machin qui leur pourrit la vie et leurs poissons. Et sinon, il faudrait pas grand-chose pour être heureux, quoi. On est dans cette cabane. On est au moins 150. Il n'y a pas une femme. Il n'y a que notre traductrice. Il n'y a que Zarine, notre traductrice, mais sinon il n'y a pas une seule femme. Il y a des vieux, des jeunes, des gamins, beaucoup de gamins. Et là, on doit être en principe en train de se préparer à chanter l'hymne national.
C'est une chanson sur le Bangladesh, sur la beauté du Bangladesh.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Guy Vanctil et Daniel Mermet à Dakar. Merci à Uday Shankar, Anoub Barwa, Tipu Sultan du journal Protomalo. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselo et Patrick Henry. Réalisation Koy Nguyen et Raphaël Moutère, d'assisté de Charlotte Perry. Répondeur Agnès Lebot. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le 01 56 40 37 37. Da 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 da